Bien, bonjour à vous. Je vous propose de commencer tout de suite cette seconde séance du cycle 2014. Bonne année pour ceux et celles que je ne l'ai pas souhaité. C'est un rituel, mais les rituels, au fond, ont quand même une importance. Il y a un livre de Frédéric Ildefonse que je fais venir au printemps, cet été plutôt, pour un séminaire puis au banquet qui est très intéressant justement sur la fonction très positive du rituel dans les sociétés traditionnelles et dans la société antique. C'est une helléniste et donc elle parle beaucoup de l'importance des rites, des rituels dans la société grecque. C'est un livre très intéressant. Donc sacrifions à ce rituel, n'hésitons pas à se souhaiter bonne année. La dernière fois, il y a quelques personnes qui n'étaient pas là, on avait entamé pour la seconde année cette réflexion sur la communauté. La question, l'enjeu essentiel est le suivant, c'est qu'il a été bien posé à la fois par des philosophes comme Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot, qui n'est pas un philosophe mais qui est un penseur et écrivain dans les années 80, par Giorgio Agamben également, ce philosophe italien. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on constate l'impasse dans laquelle a mené l'aspiration, l'exigence communautaire dans l'histoire du moins de l'Occident et en particulier de l'Europe. Donc cette impasse, il s'agit d'en faire la genèse, la généalogie, c'est-à-dire de comprendre comment s'est mis en place progressivement à travers l'histoire de la culture occidentale, de la culture européenne, une conception, une certaine conception ou des conceptions de la communauté, c'est-à-dire, pour le dire vite, du commun des hommes, de l'être ensemble ou de l'être avec, comme certains philosophes le disent encore, comment s'est mis en place une certaine conception qui a abouti ou qui a favorisé ou qui a créé les conditions d'une impasse désastreuse dans l'histoire de l'Occident. Comme dit Jean-Luc Nancy, c'est en effet au nom de la communauté, alors décliné de différentes manières, que les plus graves, les plus grands désastres de l'histoire se sont accomplis au XXe siècle. Donc, on pourrait en rester là, et c'est aussi la tentation actuelle, mais qui est légitimée par l'histoire, en se disant, tu vois, toute forme d'aspiration à un être ensemble communautaire aboutit à un désastre, témoin encore de nos jours les dangers que l'on nomme communautarisme, par exemple. On pourrait en rester là, mais la question c'est qu'on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'aspiration à la communauté, à un être ensemble, à un être avec communautaire, est plus forte que tout et résiste, ressurgit régulièrement à travers différentes formes, contre une conception d'une société qu'on pourrait qualifier de froide, d'une société qui tiendrait uniquement autour de l'institution, quelles que soient les formes des institutions, qui tiendrait autour, au fond, de l'institution globale qu'est l'État, qui est au fond la forme dominante qui a compris nos sociétés modernes. C'est-à-dire des sociétés froides, organisées à partir d'un lien faible entre des individus atomisés. On constate que cette forme d'être ensemble, qui est une forme faible, froide, ne répond pas suffisamment aux aspirations des hommes. Et il en résulte le fait qu'un désir de communauté ressurgit constamment, sous une forme ou une autre. Donc, on n'en a jamais fini, du coup, malgré les désastres et malgré l'impasse, avec cette question de la communauté. C'est pour ça que cette question insistant, il nous faut bien tenter, à la lumière de au moins 20 siècles de pensée de la communauté, il nous faut bien tenter de voir comment on peut tenter modestement une pensée, une conception de la communauté qui soit une ouverture, qui tente d'échapper à toutes les impasses et prémunir, immuniser contre les désastres que nous avons connus, hélas, que trop bien connus. J'ai utilisé le mot immuniser. J'y reviendrai largement par la suite. grâce à un philosophe contemporain qui fait partie de ceux qui, dans les années 80, ont vraiment tenté de penser de la manière la plus profonde ce débat. Je suggère juste pour le moment, à votre attention, une opposition qui donne, je crois, vraiment à penser entre le mot « communauté » communauté et le mot immunité. En fait, c'est la même racine, mais en opposition. Et la racine de communauté et d'immunité, qu'on retrouve, semble-t-il, d'ailleurs aussi dans le mot allemand Gemein, Gemeinschaft, le mein. C'est le mot latin munus. Gemeinschaft, c'est la communauté justement, par opposition à Gesellschaft, qui est la société. Cette opposition dans deux formes d'être ensemble a été posée par un philosophe sociologue, nous en avions parlé l'an dernier, mais j'y reviendrai pour ceux qui n'étaient pas là, qui est Tenise, au XIXe siècle. Il oppose la communauté précisément à la société. La société étant à entendre rapidement, selon le modèle que je viens d'évoquer, de la société froide, de l'être ensemble sur un mode froid, est basé sur un lien faible, c'est-à-dire le lien étant l'institution et, au fond, l'État. Alors, c'est quoi ce mot latin qui est la racine de communauté, d'immunité? C'est « munus », mot extrêmement complexe, et donc pour le moment, je ne fais juste que pointer à votre attention cette question, mais on y reviendra largement. Le « munus » en latin, c'est un mot très riche, très complexe, qui signifie, pour le dire vite pour le moment, et d'une façon réductrice, parce qu'il est polysémique, c'est ici qui signifie la dette, la charge. J'évoque ça aussi, on y reviendra largement, mais c'est juste pour vous donner des petites pistes de réflexion rapidement. Ça a à voir avec cette forme de lien premier, et donc d'être ensemble premier dans les sociétés dites primitives, dites anciennes, ou comme on dit maintenant, les sociétés premières, pensez au Quai Branly, au musée Branly, des arts premiers, parce qu'on a considéré que primitif faisait péjoratif, avait une connotation négative. Donc dans les sociétés anciennes traditionnelles, le munus, ça a à voir donc avec cette forme de lien, d'être avec de ces sociétés, qui est le don contre don. Donc d'une certaine manière, ayez en tête que le munus a à voir avec ce que les anthropologues ont pu appeler par la suite, au 19e, 20e siècle surtout, le contre-don. C'est l'obligation du don. Je n'en dis pas plus pour le moment, sachant qu'on y reviendra largement par la suite. Un des grands philosophes, un anthropologue qui a pensé cette forme de lien communautaire est Marcel Mauss, M-A-U-2-S. Marcel Mauss, qui a vécu donc et écrit au début du XXe siècle et qui est un des grands pionniers, des grands fondateurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui aussi bien l'anthropologie que l'ethnologie. Les deux termes ne recouvrent pas tout à fait les mêmes champs, mais peu importe en l'état actuel. Voilà, le munus, donc à la racine de ces deux mots essentiels qui s'opposent, communauté, immunité, communitas, immunitas. Je suggère juste cela en plus. Communauté, c'est un munus, co, qui est partagé. Immunité, im, c'est la situation où l'on est dégagé du munus, où on s'est déchargé de la charge du munus. Donc, ceci suggère simplement qu'effectivement, par rapport au plein, au trop plein qu'applique l'être ensemble de la communauté, la tentation, c'est de se dégager dans l'immunité. Et c'est ce qui va donner lieu à ce modèle de société moderne basé sur un lien faible sur l'institution. C'est tout ce parcours que nous allons essayer d'explorer dans un long premier temps, je ne parle pas simplement d'aujourd'hui, mais des séances à venir, du cycle, pour tenter de voir sur quoi on bute à chaque fois, pour, dans une seconde partie de l'année, à la lumière de cette exploration des impasses, quelles qu'elles fussent, tenter de frayer une ouverture possible, s'il y en a une. c'est de tenter de relever le défi humain d'intégrer une communauté qui ne soit pas désastreuse. Inutile de dire que l'ambition est énorme, que nous ne la tiendrons pas, mais que nous pourrons tenter néanmoins de se frayer, de s'ouvrir quelques interstices possibles. L'ambition est énorme, mais c'est précisément là que nous en sommes aujourd'hui, le monde occidental, disons, et je dirais la planète entière, le monde planétaire, parce qu'au fond, le monde d'aujourd'hui est occidentalisé du nord au sud, d'est en ouest. Je veux dire, à part des vagues survivances plus ou moins tenaces, plus ou moins fortes, il faut en convenir, la société mondiale, la mondialité, ce n'est pas qu'un problème d'économie c'est un ou de finance. C'est un problème de conception uniformisée en voie d'homogénéisation de la société humaine. D'accord ? Donc, je dirais, le monde en est là aujourd'hui de tenter de penser cet être ensemble communautaire selon une voie, une perspective ouverte, une perspective positive. Bon, sachant qu'en la matière, il faut se garder des bonnes intentions, l'enfer en est pavé, comme vous le savez. Et les bonnes intentions ne servent à rien parce qu'elles n'ont jamais rien produit comme solution, au contraire. Ce n'est pas d'en appeler aux grandes valeurs, partage, la fraternité de façon incantatoire, l'accueil de l'autre. Ce n'est pas en appelant à ces grandes valeurs trop universelles, trop évidentes pour être honnête, quoi, que l'on va résoudre le problème. C'est le même problème, d'ailleurs, sur une variante de toutes ces notions-là, qui est ce que j'appellerais la bien-pensance, la bonne conscience occidentale. C'est le même problème que la notion de droit de l'homme, au fond, fondamentalement. D'ailleurs, on voit que c'est une pensée faible qui ne résout rien, parce qu'au nom des droits de l'homme, l'Occident s'enfonce dans bien des impasses, ici ou là. Ce qui ne veut pas dire, entendez-moi bien, que la déclaration des droits de l'homme ne soit pas quelque chose d'intéressant ou un document constitutionnel important. Mais ce n'est pas à partir d'une pensée des droits de l'homme comme du partage, comme de la constatation au partage, à l'amour universel, qu'on va résoudre quoi que ce soit. L'amour, tout le monde est pour l'amour, bien sûr. Et du coup, ce n'est pas un mot qui donne une clé pour penser d'être ensemble. C'est bien ça le problème. Donc, j'avais commencé la dernière fois, mais avançons sur l'exploration des différentes impasses, des différentes idées, des différentes conceptions de la communauté, de l'être ensemble communautaire qui ont produit, forgé le désastre. Le désastre, il faut bien l'entendre, il ne faut pas échapper à la question en disant « mais c'était des ratés, etc. » Il faut entendre sérieusement ce que dit le philosophe Jean-Luc Nancy ou Roberto Esposito, qui disent très clairement « c'est au nom de la communauté » que les fascismes et les nazismes se sont mis en place. C'est au nom d'une haute idée, d'une forme de communauté que ces sociétés, ces régimes se sont mis en place. On peut dire aussi, mais là, en n'amalgamant pas, parce que c'est un processus différent, c'est au nom d'un ratage d'une certaine conception de la communauté que s'est mis en place aussi le stalinisme. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Et il ne faut pas tout amalgamer parce que ce qui n'est pas une façon de minimiser le nombre de morts qu'a produit le stalinisme, entendez-moi bien. Mais à tout amalgamer dans une même forme, ça n'aide pas à comprendre les choses. Alors, je vais revenir très rapidement sur la question qui avait été soulevée par Jacques De Witt la dernière fois, parce qu'elle est centrale et on va avancer là-dessus, la question de la mort, comme étant le commun qui définit le destin de la communauté depuis très longtemps, notamment à partir de la chrétienté dès les premiers siècles. Mais avant de cela, je voudrais rappeler quelques autres dimensions d'une idée de la communauté qui s'est forgée dès l'origine et qui conduisent à des impasses. Ou c'est d'autres façons de soulever le même problème, au fond. Depuis Platon, on a toujours tenté de poser, pour ceux qui étaient là l'an dernier, souvenez-vous, dans la République, de poser la communauté comme, ou d'approcher l'idée de communauté comme un gros sujet, comme un gros individu, dont chaque individu singulier ne serait qu'un élément du tout. La communauté comme un tout, un être total, un tout, que l'on peut penser selon l'analogie avec un sujet individuel. La communauté comme un gros individu. Ou ce que pense Platon, au fond, la communauté comme une âme.
Comme une âme.
On a là l'impasse à laquelle conduit une certaine conception de l'un, de l'unité, qui est consubstantielle de l'idée de communauté, l'unité. Une certaine conception de l'un, homogénéisante, pensée comme un seul individu, pensée comme un seul corps, au fond. Et la notion de corps, qui est au fond une métaphore, en dit long que la sociologie jusqu'à aujourd'hui, ou la science politique, utilise pour désigner l'être ensemble, la société, un corps. Pensez à l'idée qui est répandue de façon totalement banalisée du corps social, le corps social avec ses organes. La notion de corps, on la retrouve, cette métaphore du corps, on la retrouve déclinée partout dans les discours sur ce qui pense une société, un être ensemble, partout. Or, pensez au fait qu'on retrouve cette métaphore aussi dans le terme de corporation. Et j'éclaire juste un peu plus ce constat selon quoi les fascismes se sont faits au nom de la communauté. Vous savez que l'idéal, le modèle du fascisme italien, par exemple, c'était les corporations, qui apparaissaient comme un modèle idéal de l'unité communautaire, tous comme un seul corps. Au fond, ce qui est en cause derrière cela, c'est cette idée que l'être ensemble, la communauté, le commun, c'est un être supérieur, un être englobant, un homogène, et qui peut s'appréhender comme ayant une substance propre, la substance de la communauté. Et les individus singuliers que chacun est, que chaque homme est, tirant sa propre substance de l'appartenance ou sa propre identité, de l'appartenance à ce même corps de la communauté. La communauté, à partir de là, ne peut qu'être essentialisée, c'est une essence qui est définie par un certain nombre d'attributs, et substantialisée, essentialisée, c'est un être défini ça par un certain nombre de qualités, d'attributs. Et à partir de là, c'est foutu. À partir de là, c'est foutu parce que on peut décliner certaines essences qui ont été données à travers l'histoire aux différentes communautés que l'Europe, par exemple, a traversées. Une substance définissant une communauté, c'est par exemple le sang. Être du même sang. La communauté se définissant par le fait d'être du même sang. Une autre variante de cela qui pose le même problème, parce que c'est aussi une essentialisation. Le lien, les races, oui, effectivement, les races, et on va retrouver ça dans le nazisme, être défini par une même caractéristique biologique, soi-disant biologique, la race aryenne. Mais d'une façon apparemment plus anodine, le sol, le territoire, la communauté définie par l'enracinement dans un même sol, dans un même territoire. Mais ça peut être également, de manière plus subtile, la communauté dont la qualité constitutive essentielle d'essence et un système de valeurs. C'est le modèle typiquement de la communauté religieuse, par exemple. On va y revenir. Vous voyez que la communauté est définie comme un être qui forme une totalité et qui est définissable comme substance, comme essence, à partir d'un certain nombre de qualités et d'attributs, mène rapidement à des impasses. C'est-à-dire que du coup, la pluralité des individus qui forment cet être ensemble ne peut exister que par le fait de partager la même substance, la même essence, par un processus d'appartenance, encore une fois, et d'identification. Donc, inévitablement, ça définit la communauté comme une totalité fermée, clôturée. Et donc, à partir de là, on voit, à travers l'histoire, on peut décliner tous les exemples historiques de la chose. Venons-en maintenant à ce qui, pour l'Europe et plus largement l'Occident, est essentiel, à une variante de cette idée de la communauté, qui est à la fois une continuation du platonisme de Platon et aussi une rupture. C'est la conception chrétienne de la communauté, qui a diffusé dans la pensée occidentale jusqu'à modéliser, formaliser, y compris les pensées dites totalement laïques, agnostiques, athées. Je l'ai déjà dit et répété, on pourra y revenir, mais c'est d'actualité. Le problème du discours laïque, de la laïcité aujourd'hui, c'est qu'il ne se pense pas dans ce qu'il est, c'est-à-dire il ne se pense pas comme sécularisation du modèle chrétien. Et du coup, c'est une impasse. Je vais développer lentement à travers ce que je vais dire là. Donc, la conception chrétienne. On est au départ obligé de s'appuyer sur deux grands noms de l'histoire du christianisme. Paul, d'un côté, qui est d'une certaine manière le fondateur de l'Église. De l'Église romaine. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez une culture, ne fût-ce que légère de ce point de vue-là, vous savez que traditionnellement, l'Église considère que Pierre est le fondateur de l'Église à partir de l'interprétation d'un passage de l'Évangile, « Tu es Pierre, tu es Pierre ». En fait, l'histoire du christianisme, là je ne peux pas la développer maintenant, mais juste un mot, au fondement repose sur deux figures, Pierre et Paul. Et en réalité, vous le savez peut-être, Pierre a fondé au tout début l'église de Jérusalem et Paul a fondé donc l'église de Rome. Les deux au départ sont des juifs. Simplement, ils vont accorder une place différente à leur héritage spirituel. Pierre et l'église de Jérusalem, dont on connaît très peu de choses, parce qu'il n'y a quasi pas d'écrits, qui sont restés, hormis des écrits apocryphes ou hormis des écrits dont le statut n'a été établi que récemment. Je pense notamment aux homélies clémentines, qui sont la mise par écrit quelques siècles plus tard des propos de l'enseignement de Pierre, l'église de Jérusalem. On peut dire très schématiquement que l'église de Jérusalem représente véritablement au sens strict du terme ce qu'on appelle couramment le judéo-christianisme. Terme judéo-christianisme qui est utilisé à tort et à travers d'une manière fausse à la fois historiquement et fausse spirituellement, parce qu'on englobe dans le terme judéo-christianisme au fond tout ce qui serait issu de la Bible dans sa version juive et dans sa version chrétienne, et ça serait un ensemble flou qui n'a pas de consistance et de définition. En fait, le seul judéo-christianisme qui ait existé, c'est cette spiritualité, cette pratique qui s'est organisée autour de Pierre à Jérusalem, et qui est véritablement une tentative de synthèse, un syncrétisme, comme on dit, entre l'héritage juif et l'avènement de la pensée chrétienne des évangiles. Paul est véritablement le fondateur de la doctrine de l'Église. C'est donc un personnage extrêmement important, un personnage central, mais sur lequel on va passer assez vite par rapport à ce qui nous intéresse là. Une autre figure essentielle sur laquelle on va s'arrêter plus longtemps et on va regarder quelques textes que je vais vous distribuer, c'est Augustin d'Hippone, connu par l'Église comme Saint Augustin. Hippone, H-I-P-O-N-E. Alors, qui arrive quand même quelques siècles après, pour le situer, mais je vais préciser davantage les choses, qui vit au 4e siècle. Hippone, je précise tout de suite que c'est le nom romain francisé d'une ville d'Algérie. Le nom romain en Numidie et qui existe toujours sous un nom arabe que j'ai oublié. Augustin était un berbère, en fait, mais un berbère totalement romanisé. Augustin est considéré dans l'Église comme l'un des, mais au fond, le véritablement par excellence, père de l'Église. C'est ce qu'on appelle le père de l'Église. Et vous savez qu'il y a dans le christianisme toute une branche de recherche intellectuelle importante sur les textes qu'on appelle la patristique. La patristique étant un patristique, disant bien ce que ça veut dire, père, pater, étant constitué du corpus, c'est-à-dire de l'ensemble des ouvrages qu'on a pu établir et traduire, des ouvrages produits par les pères de l'Église. Donc tous ces grands philosophes, théologiens, hommes spirituels, de spiritualité, qui ont par leurs écrits, par leurs discours, constituer véritablement la pensée chrétienne durant les premiers siècles, donc sous la période de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est important ceci, hein, s'effondrant, disons, au 5e siècle, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Mais au centre de ces pères de l'Église, Augustin est probablement la figure la plus décisive. Non pas qu'il représente tout l'héritage de la pensée chrétienne, mais il représente un héritage extrêmement important. Très schématiquement, là aussi, il faudrait y consacrer des heures autrement. On peut dire qu'Augustin, d'un point de vue des idées, du point de vue de la philosophie chrétienne, s'inscrit dans une forme de reprise et de continuation du platonisme. Pendant la vie d'Augustin, dans l'Empire romain, un courant philosophique est extrêmement important dans toute la romanité, qui avait ensuite vraiment combattu quand l'Empire romain va devenir chrétien, c'est le néoplatonisme. Vous avez toute une chaîne de grandes figures de la philosophie platonique platonicienne, c'est-à-dire qui reprend l'héritage de la pensée de Platon, qui va se succéder et avoir un rayonnement considérable. Je cite quelques noms. Vous avez Proclus, Jamblic, Plotin, P-L-O-T-I-N, Plotin qui justement a une influence considérable sur Augustin. Je citerai un dernier nom qui est le plus tardif, que l'on a publié dans une traduction remarquable aux éditions Verdier, Damasius ou Damasios, parce que selon que met l'accent sur sa langue principale qui est le grec, on l'appelle Damasios. Selon qu'on met l'accent sur le fait que c'était un citoyen romain avant qu'il ne soit expulsé, on appelle Damasius. Ce qui veut dire au fond de Damas. L'Empire romain ayant en tête qu'il couvrait territoire considérable de la Gaule, passant par la Grèce, tout le nord de l'Afrique, bonne partie du Proche-Orient, etc. Donc, ces deux figures vont jouer un rôle considérable dans la conception chrétienne qui ensuite, disais-je, se laïcisera de la communauté, de l'idée de communauté. Quelques mots d'abord sur Paul, mais qui n'est pas le plus décisif par rapport à ce qui nous importe là. On pourrait développer longtemps sur Paul par rapport à la communauté, mais je préfère qu'on s'arrête beaucoup plus longuement sur Augustin. Paul utilise dans tous ses textes, donc dans toutes ses épîtres en particulier, le terme grec directement issu de Platon et aussi d'Aristote, qui est le terme koinonia, qu'on transcrit K O-I-N-O-N-I-A. C'est le mot qui donne le commun. On l'avait vu par rapport à Aristote en particulier. Koinon. Koinon, c'est le commun. Koinonia, c'est la communauté. Et le koinonoi, les koinonoi, O-O-I. La terminaison O-I en grec, c'est le pluriel du masculin. D'accord ? Alors, K-O-I-N-O-N-O-I, le pluriel. Les koinonoi, qui est un terme qu'utilise fréquemment Paul, on le traduit couramment par les frères, dans l'idée de l'appartenance à une même communauté. Nous sommes tous frères, koinonoi. Tout ça renvoie donc encore une fois à koinon, qui est le mot qui désigne le commun. Alors, pour Paul, Paul de Tarse, T-A-R-S, Paul de Tarse, Saint Paul pour l'Église, la communauté, le lien communautaire, le lien de fraternité, se constitue par le don de Jésus, le don du Christ. C'est-à-dire que Jésus a donné sa vie, est mort, crucifié, pour sauver la communauté des hommes. Donc nous sommes frères en ce que nous sommes nés du don rédempteur du Christ. Ce qui veut dire qu'à partir de là, la communauté humaine s'éprouve, se réalise dans la communion, dans le corps du Christ. D'où ce rite central dans l'Église. On est frères à travers le corps du Christ. Juste deux réflexions à partir de là. Paul induit une conception de la communauté qui est organisé, structuré selon un plan vertical. Selon un plan vertical, c'est-à-dire que c'est la relation homme-Dieu qui constitue l'être ensemble, ou la possibilité d'un être ensemble. Du point de vue de la communauté humaine, c'est homme-Dieu. Et je pense que ce plan de verticalité pour constituer la possibilité d'un être ensemble va être déterminant tout au long de la pensée occidentale, du politique. C'est ce que Thomas Hobbes, au fond, pensera à partir de sa conception de l'État comme lien unissant les hommes dans un être ensemble possible. Je n'insiste pas. En ce sens-là, notamment, enfin, ça, c'est une des dimensions de la rupture qu'on peut vraiment distinguer au départ, ce que j'évoquais, je ne sais pas si c'était arrivé, l'église de Jérusalem avec Pierre et l'église, et l'église paulinienne, qui est l'église qui va s'imposer. Un des aspects de la rupture se joue là aussi. Il se joue, à mon avis, beaucoup plus ensuite avec Augustin. C'est Augustin qui invente le péché de chair, la question de la chair. Corps et chair, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. J'évoque la question de la chair parce que je dirais plus que le judaïsme à travers la circoncision, c'est accorder une marque dans la chair. Le corps et la chair, tu vois en quoi ça se différencie. C'est, par exemple, le corps du Christ, tel que la pensée chrétienne le constitue comme le vecteur de la communauté humaine, c'est un corps pas de chair. C'est un corps glorieux, c'est un corps transcendant. Juste deuxième remarque par rapport à Paul, donc, on retrouve là cette dimension première du mot communauté, le munus, au sens où c'est le don du Christ qui fonde la possibilité de la communauté humaine. Donc, Paul dit clairement, nous sommes nés de ce don, nous existons grâce à ce don, parce que le péché originel aurait détruit la possibilité de la communauté humaine. C'est ce don qui nous donne la possibilité d'exister, qui nous a rédimés. Ce qui veut dire que c'est une charge. C'est une charge. C'est un munus. C'est une dette. D'accord ? Bon, il n'est que temps, on pourrait revenir, on y reviendra, hein, on avance aussi en spirale, hein, donc ça permet de revenir. Mais je ne veux vraiment pas m'éterniser parce que le temps quand même est compté sur Paul. Augustin d'Hippone me paraît plus intéressant pour creuser la conception chrétienne de l'idée, enfin l'idée de communauté, et qui va être la conception d'une certaine manière dominante de la pensée du politique moderne, de la communauté, de l'être ensemble. Ce qui est intéressant à constater, c'est que Augustin, qui évidemment se revendique de Paul, évidemment, autrement il ne serait pas chrétien, romain, va d'une certaine manière infléchir le message de Paul, va l'orienter différemment, va mettre l'accent de façon différente, ce qui aboutit à une conception au fond différente et déterminante, décisive de la communauté humaine. Quelques repères rapides quand même sur Augustin, saint Augustin. Augustin d'Hippone, donc je rappelle, H-I-P-O-N-E. Alors, donc Augustin, je disais tout à l'heure, donc il vit au IVe siècle. On sait assez précisément qu'il est né en 354 de notre ère. Donc il est né à Tagaste, mais l'essentiel de sa vie, donc une autre ville, je passe là-dessus, de Numidie, c'est-à-dire de l'Algérie. Mais l'essentiel de sa vie, et notamment quand il sera évêque, se déroulera donc à Hippone. D'où le fait qu'on le nomme non pas Augustin de Tagaste, mais Augustin d'Hippone. D'accord ? Donc, il est né d'une famille riche, ce qui va lui permettre de faire des études. Et donc, il sera étudiant. Tout d'abord à Carthage, et ensuite à Rome. À Rome, il passera aussi à Milan, mais disons surtout à Rome. L'expérience de Rome est déterminante pour lui. C'est un étudiant classique de l'Empire romain. Un bon vivant, un bon laïc, il aime bien faire. Oh, il fait des études très sérieuses, hein, et notamment c'est là qu'il va avoir une connaissance très profonde de tout le platonisme et le néoplatonisme, avec lequel il va pouvoir discuter sérieusement. Donc, c'est quelqu'un qui a des bases intellectuelles extrêmement, extrêmement solides. Il lit les latins, les auteurs latins, Cicéron, qui aura aussi une importance pour lui dans sa sagesse issue du stoïcisme. Il se met en concubinage, donc il vit avec une femme. Voilà, ce n'est pas du tout un pur esprit. Alors, par contre, c'est un petit détail intéressant, on sait beaucoup de choses sur la vie d'Augustin. Il y a quelque chose, un parallèle qu'on pourrait faire avec Rousseau, parce qu'il a écrit ce fameux livre qui fait plusieurs tomes, d'ailleurs, Les Confessions, qui a entendre, pour le dire vite, dans un sens assez proche de celui qui a donné à son propre livre Rousseau. C'est une forme d'autobiographie qui se veut délivrer à des lecteurs possibles une vérité de son être. On retrouve là aussi toute la problématique dont la littérature contemporaine s'est emparée, de l'autofiction, c'est-à-dire de savoir en quoi, quand on reconstitue sa propre histoire, on est dans le réel ou dans la fiction. Et toute histoire écrite est d'une certaine manière une fiction, d'où ce terme que je n'aime pas du tout, mais bon, qui indique bien le problème en tout cas, utilisé par les écrivains contemporains, d'autofiction. Mais c'est là qu'on voit encore l'importance d'Augustin, c'est-à-dire qu'Augustin inaugure le genre littéraire d'une certaine manière, repris par Rousseau, donc dans la période moderne. Rousseau pense effectivement, en écrivant les Confessions, en donnant ce titre à son texte, à Augustin. Vous savez que Rousseau avait une solide culture religieuse, protestante et catholique. Et Rousseau aspire aussi largement donc la littérature contemporaine. Vous voyez que tout ceci, ce n'est pas simplement gratter le passé et faire de l'archéologie et revoir des vieilles histoires, quoi. Il y a une contemporanéité d'Augustin. C'est le danger de l'histoire qui voit trop les choses selon un déroulé. Alors, c'est un exercice salutaire, en même temps. Mais le danger de l'histoire, c'est l'historicisme, c'est-à-dire de voir trop les questions humaines selon un déroulé temporel qui donne l'impression que ce qui est vieux est dépassé, que, en plus, selon la conception moderne de l'histoire qui s'orienterait avec une flèche, selon un temps, une temporalité fléchée, une flèche orientée, à partir de là, toute la notion moderne de progrès. Les vieilles histoires apparaissent d'autant moins intéressantes et actuelles que ce sont des vieilles histoires. Je crois qu'il faut, tout en se nourrissant de l'histoire, il faut accepter aussi de faire un pas de côté par rapport à l'historicité des choses, c'est-à-dire à imaginer qu'il y a des questions fondamentales qui sont ahistoriques. Ahistoriques ou atemporelles, si vous voulez. C'est-à-dire qui ont une permanence qui se retrouve dans une contemporanéité. Et donc, ça serait une erreur d'optique qui appauvrit ce que l'on peut tirer, de considérer que Paul, Augustin, tout ça, c'est des vieilles histoires. Et je ne parle pas de la Bible. Des très vieilles histoires qui sont bonnes juste pour une culture et mieux comprendre l'histoire de l'art, par exemple. Cela dit, l'histoire de l'art, si les peintres, tout au long de l'histoire de la peinture en Europe, se sont autant inspirés des scènes bibliques, des scènes des évangiles, c'est que, d'une certaine manière, pour eux, ce n'était pas des vieilles histoires, justement. Qu'ils y trouvaient une force essentielle à leur travail de création artistique. Ce qu'aujourd'hui, on a plus de mal à comprendre. Parce qu'on raisonne trop de façon historiciste, je pense. Bref. Donc, Augustin, c'est un étudiant, y compris bon vivant, qui vit donc avec une concubine. C'est le terme qu'il utilise. Ils vont avoir une liaison pendant une bonne dizaine d'années. Mais alors, ce qui est intéressant, disais-je, juste j'ajoute ça, c'est qu'on ne connaît pas son nom. Je disais donc qu'on connaît beaucoup de choses de la vie d'Augustin à travers ses propres écrits et à travers notamment les Confessions. Et on connaît qui était sa mère et le nom de sa mère. Sa mère, c'est la fameuse Monique, qui est passée à travers les siècles. Tout le monde ou presque connaît Monique, la mère d'Augustin. Mais par contre, la femme avec laquelle il a vécu n'a pas de nom. Donc c'est la concubine. Donc, bref, Augustin, à Rome, va avoir aussi à découvrir à travers ses fréquentations, c'est quand même le centre du monde d'une certaine manière, enfin du monde européen, il va avoir à découvrir le manichéisme à travers la figure d'un évêque manichéen qui est Faustus. Le manichéisme, M-A-N-I-C-H-E-I-S-M-E, hein, manichéisme. À travers un évêque manichéen qui est à Rome. Alors, le manichéisme va être, pour finir, rejeté par l'Église romaine comme une hérésie, d'accord ? Mais ça va avoir une influence considérable en Europe. C'est l'une des branches, Alors là aussi, excusez-moi, je vais faire très bref, hein, compléter si vous avez envie par vous-même, d'un courant de pensée, de spiritualité lié au christianisme qui va avoir une grande influence sur tous les premiers siècles, qu'on appelle la gnose, les courants gnostiques. La gnose, G-N-O-S-E, gnostique, G-N-O-S-T-I-Q-E. Alors, ça vient du mot grec gnosis, qui veut dire la connaissance. D'accord ? Les courants gnostiques, il y en a différentes variantes, différentes mouvances. C'est des courants qui considèrent, qui repartent de la question de la Genèse, posée par le livre de la Genèse, de la Bible, et qui considèrent qu'à travers le message de la Genèse, c'est à travers ce que Dieu a permis avec Adam et Ève, l'homme, l'humain, est possiblement dépositaire d'une connaissance des choses invisibles, d'une connaissance des mystères du monde. Voilà, la gnose part de là, d'où le nom gnose. D'une connaissance des principes premiers. Il y a même un courant gnostique qui a une grande importance pendant plusieurs siècles, qui s'appelait les Ophites. O-P-H-Y-T-E-S. Et Ophite, ça vient du grec Ophis, qui est le serpent. C'est-à-dire qu'ils vouaient une adoration au serpent, considérant que le serpent n'était pas celui par qui le mal est venu, mais que le serpent est celui par qui l'homme a accédé à la connaissance. Et donc, le manichéisme est un courant extrêmement important de la gnose qui, comment dire en peu, très peu de mots, qui considère que le monde est dirigé par deux principes qui sont quasiment à force égale. Quasiment. Le principe du bien qui est Dieu. Mais un Dieu faible. Un Dieu créateur qui n'est pas dans une toute-puissance dominatrice. Et que ce principe du bien qui est Dieu est toujours, sa prédominance, son hégémonie, est toujours menacée, disputée par un principe concret qui est figuré par Satan, qui est le principe du mal. Et donc, le monde est dirigé en permanence par cette dialectique du bien et du mal, où l'issue est incertaine parce que ces deux principes sont en gros de force égale. Et vous comprenez à partir de là pourquoi l'Église romaine va finir par condamner le manichéisme, c'est que n'est pas acceptable dans la doctrine chrétienne l'idée que ces deux principes puissent être à part égale. C'est-à-dire que l'idée que puisse être remise en cause la toute-puissance du Dieu créateur. Vous savez que, bien après, au cours du Moyen-Âge, dans ces terres nôtres, le catharisme est une forme de continuation, du manichéisme. Les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, le manichéisme ayant été condamné comme hérésie, le catharisme sera combattu et condamné comme hérésie. C'est la même logique. Donc, Augustin, par ses fréquentations, donc à Rome, va tout connaître du manichéisme. Il va être séduit, d'ailleurs, et il y a des traces de son intérêt par le manichéisme avant qu'il rejette complètement le manichéisme, dans la pensée d'Augustin, et en particulier dans l'importance qu'Augustin va accorder à la question du mal à l'œuvre dans le monde. Toujours à Rome, il va également fréquenter, et ça, ça va être déterminant, un des grands pères de l'Église, qui est évêque, et qui s'appelle Ambroise, Saint Ambroise, Ambroise. Et l'enseignement d'Ambroise va être déterminant chez Augustin. Et Augustin se convertit pleinement au christianisme. Il n'y a pas eu de moment aussi fulgurant que pour Paul. mais c'est autour de 384 que Augustin décide véritablement de son orientation, de son engagement pleinement dans le christianisme. Il y a une conséquence, c'est qu'en 85, dans sa vie personnelle, c'est peut-être pour ça qu'après, il n'en parle jamais. C'est pas qu'il n'en parle pas, mais qu'il la nomme pas. Il fout à la porte sa concubine. En 85, il la dégage. Alors que, ne faisons pas d'anachronisme, alors que l'Église n'empêche pas, vu qu'il va être prêtre et évêque, n'empêche pas le mariage des prêtres et évêques. Jusqu'au Xe siècle, vous avez des évêques qui sont mariés et qui ont des enfants. Ceci montre d'ailleurs que c'est un dogme tardif, le mariage des prêtres. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de contestation assez puissant au sein de l'Église. Il est d'autant plus puissant qu'il se sent légitime. Et l'interdiction, en fait, est pour des raisons très terrestres, qui est justifiée théologiquement, mais a posteriori, qui est justifiée justement par l'invention de la chair, dont Augustin est un des théoriciens. L'invention de la chair, et la chair étant liée au péché. Suite à ça, sa décision de s'engager dans le christianisme, il se met effectivement à lire beaucoup les épîtres de Paul, et tout en continuant à lire Platon et les platoniciens. Et on comprend à partir de là comment Augustin est à l'origine d'un platonisme chrétien qui va être l'un des courants dominants de la philosophie chrétienne, le platonisme, pardon, chrétien. L'autre courant, mettant davantage l'accent sur l'héritage aristotélicien, c'est-à-dire d'Aristote, s'inspirant plus d'Aristote, ça revêtira une grande importance plus tardivement au cours du Moyen-Âge, et notamment avec la connaissance pleine et entière des livres d'Aristote par les Arabes, et une grande figure de l'aristotélisme chrétien, c'est Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin pour les chrétiens. Alors, on retrouve encore cette ligne de fracture au sein des doctrines chrétiennes, des pratiques religieuses, des théologies, des liturgies. Encore aujourd'hui, on voit bien ce qu'ils sont, même s'ils ne le pensent plus comme tel, même si c'est dans un impensé, plus marqué au départ par le platonisme et ceux qui sont plus marqués par l'aristotélisme chez les chrétiens, les courants religieux. Les dominicains sont plutôt orientés vers un héritage aristotélicien. Les ordres issus d'Augustin sont évidemment beaucoup plus marqués par le platonisme. Ce qui ne veut pas dire que l'un soit mieux que l'autre. Je dirais, encore une fois, vous savez, ma grande admiration pour la pensée platonicienne, mais bref. Et c'est intéressant, là, j'évoque ça aussi pour montrer comment il y a une contemporanéité de tout cela. Mais je rappelle, c'est tout ce qu'on a fait l'an dernier, mais d'un mot. Donc Platon, je l'ai rapidement évoqué, a cette conception de la communauté comme marquée par l'unité, le « un ». Alors que, rappelez-vous, Aristote, qui réfléchit beaucoup à la question de l'être ensemble, de la communauté, du « koinon », la koinoia, est marquée par une conception pluraliste, on va dire, plurielle, quoi. C'est-à-dire qu'elle prend en compte le fait que la cité est constituée d'une pluralité de communautés. Même si la communauté politique de la cité est englobante, au sein de cette totalité, il y a de la pluralité, il y a du pluriel. Ça joue un rôle important. Donc, bref, après son orientation vers le christianisme, Augustin se fait baptiser. Il se fait baptiser toujours à Rome en 387. Ensuite, sa mère, Monique, va mourir et il va revenir en Afrique, c'est-à-dire en Algérie. Il deviendra évêque d'Hippone. Et donc, il va constituer un des piliers de la philosophie chrétienne, inspiré de Platon. Donc vous voyez ce qui le marque, c'est le manichéisme, c'est le platonisme et le néoplatonisme, et c'est un autre fait dont je n'ai pas parlé encore parce qu'il arrive un peu plus tard, qui va être pour lui un fait extrêmement marquant, c'est le sac de Rome en 410. C'est le second sac de Rome, S-A-C. Hein. Le sac, c'est-à-dire le siège et la destruction de Rome en 410, qui est le second sac. Le premier, il l'a connu, mais il a été beaucoup plus soft. En 410, ce sac aboutit à une destruction donc, d'une partie de Rome qui est brûlée. Ça va être un événement extrêmement marquant dans l'histoire de la Méditerranée. Ce sont les Visigoths, donc les barbares, conduits par Alaric Ier. Bref, et donc cette destruction partielle de Rome, qui n'est pas encore la fin de l'Empire romain, va profondément marquer et conforter Augustin dans l'idée que je vais développer, mais que j'esquisse juste d'un mot, que le monde est voué à la destruction en fond et que la communauté humaine est vouée à la mort. Et que même la cité la plus perfectionnée, la plus haute, revêtant les qualités les plus grandes que fut Rome, qui est Rome, n'est pas épargnée par le mal, la destruction et la mort. Ça, c'est un constat traumatisant qui va être déterminant dans la pensée augustinienne. Juste un parallèle anachronique, parce qu'on y reviendra bien plus tard, enfin un peu plus tard. Un des grands philosophes anglais du XVIIe, qui est Thomas Hobbes, H-O-2-B-E-S, qui s'intéresse de... C'est sa question centrale. À comment fonder un être ensemble qui tienne. La pensée de Hobbes va être également déterminée par une expérience traumatisante dont il est le contemporain, qui est la guerre civile anglaise. Et on voit que d'une certaine manière, l'expérience historique dont ils sont les contemporains, aussi bien chez Augustin que Hobbes, va produire une même inquiétude et un même questionnement sur comment la cité, comment la communauté, ça peut tenir quand le mal, la mort et la destruction sont inéluctablement présents. J'ajouterai ceci encore, Augustin, quand il revient en Afrique, en Algérie, il va mener ce qu'on appellerait, terme contemporain, une expérience communautaire. Il va se mettre à vivre, une fois qu'il a congédié sa femme, il va se mettre à vivre avec des potes. Il va créer une communauté d'amis. Voilà. Donc, il va aussi éprouver très pratiquement ce qu'est la vie communautaire entre humains. Quoi. Ça, avant, ensuite... De s'orienter vers, on peut dire ça comme ça, une carrière au sein de l'appareil de l'Église. Il va être ordonné prêtre, il va devenir évêque d'Hippone. Dernier élément important peut-être quand même qu'il faut que j'évoque, même si ça fait appel encore à tout un pan de la pensée chrétienne que je ne ferai qu'effleurer. J'ai parlé des gnostiques, j'ai parlé du manichéisme. Il y a un autre courant qui traverse la Rome de ces périodes-là, c'est les Pélagiens. P-E-L-A-G-I-E-N-S. Le pélagisme doit son nom à son fondateur qui est Pélage. P-E-L-A-G-E. Alors, ce n'est pas une histoire de fourrure ou de poil animal, hein. Pélagius, qui est un philosophe, un théologien chrétien, originaire de Bretagne d'ailleurs, mais donc qui est un citoyen de Rome, qui va lui aussi être, pour finir, condamné comme hérétique. Et tout son courant, le pélagisme, va être rejeté comme hérésie. C'est une autre des grandes hérésies chrétiennes. Juste une remarque, c'est intéressant d'observer qu'au fond, le christianisme, et notamment le christianisme romain, réuni au sein de cette institution pluriséculaire qui est l'Église catholique romaine, nous apparaît aujourd'hui comme un bloc de doctrine, un bloc liturgique, quelque chose d'extrêmement homogène, cohérent. Il faut savoir que ceci n'a pas été donné d'emblée, qu'au contraire, le christianisme, c'est un courant de pensée, un courant de spiritualité, un courant de pratique liturgique qui va se constituer lentement à travers une pluralité d'influences et de courants, et que c'est que peu à peu qu'il va y avoir une homogénéisation, une unification, notamment par l'exclusion de tous les courants qui peu à peu seront jugés comme non acceptables, comme hérétiques par le pouvoir romain de l'Église de Rome, l'évêque de Rome. Donc pendant tous les premiers siècles, et même je dirais jusqu'au Moyen-Âge, le christianisme, c'est un bouillonnement, et c'est en ce sens-là que c'est passionnant. C'est un bouillonnement parce que, à travers la confrontation entre des mouvances, des courants de pensée extrêmement différents, toutes les questions qui sont faites, les questions nôtres, émergent, sont posées. Donc le pélagisme est un courant puissant qui avait été, pour finir, condamné comme hérétique, qui a une toute autre interprétation de la Genèse, et notamment toujours de la même scène, la question du péché originel. Dans le pélagisme, l'humanité n'est pas marquée par une tare irréparable, qui fait que l'homme ne peut être sauvé, qui fait que l'homme ne peut être sauvé que par une puissance extérieure à sa propre volonté et à sa propre liberté, qu'est l'amour, la grâce divine. Le pélagisme a une conception faible, affaiblie, de la notion de péché originel. Il ne nie pas la lecture de la Bible qui amène l'idée que l'humain est marqué par cette faute de départ, mais le pélagisme en réduit l'importance. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les pélagiens, la faute originelle, le manque, la déficience humaine, n'empêche pas la liberté de l'homme. C'est-à-dire, n'empêche pas la possibilité que l'homme puisse librement s'orienter vers le bien ou vers le mal. N'empêche pas le fait que l'homme peut choisir ses orientations. À partir de là, il en résulte l'idée que l'homme peut contribuer à son salut, en cultivant librement, en faisant le choix libre de cultiver ses vertus. Alors, dans un premier temps, les pélagiens vont être condamnés parce que socialement, politiquement, avant d'être condamnés théologiquement, c'est-à-dire que du coup, Pélage va beaucoup recruter, quand il vient à Rome, dans une forme d'aristocratie romaine. L'élite romaine, des gens cultivés, etc., qui étaient assez séduits par cela. Et donc, ce sont des gens qui vont se sentir être une élite de la vertu. C'est-à-dire qu'on va vivre selon la vertu librement, et donc on est une élite vertueuse. Et ça, dans un premier temps, ça va évidemment incommoder la société romaine. C'est qui ces gens-là qui se croient supérieurs? Et ça va préparer le terrain de la condamnation pour hérésie, de la condamnation théologique pour hérésie. C'est aussi que ça représentait une réelle menace pour le pouvoir romain, au sens où ça a eu une influence extrêmement importante, le pélagisme. Et il y a des traces du pélagisme tout au long de l'histoire du christianisme. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand on avait abordé il y a 2 ans la question du XVIIe siècle, du combat entre les jésuites, les moliniens, de Molina, qui était ce grand penseur du jésuitisme espagnol, et les protestants calvinistes, et à l'autre bout, Pascal et Port-Royal, eh bien, il est question, au fond, du pélagisme, ce terreau de pensée qui est constitué au XVIIe par ce... Donc là encore, des vieilles histoires qui ont une contemporanéité. Encore aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui, ce débat, il s'est transformé à travers les sciences. Mais c'est le même débat, la même question. Entre, pour le dire d'une formule lapidaire, déterminisme ou liberté. Et c'est ce qu'amène toute la pensée des sciences humaines et le rapport qu'on peut avoir à la pensée des sciences humaines. Quoi. C'est, est-ce que l'homme, est-ce que l'individu humain est agi et agi par des puissances extérieures à lui? Alors, ça peut devenir, avec les sciences humaines, ça peut devenir l'héritage culturel, l'origine sociale, l'origine familiale, tout ce qu'on veut, ou des déterminismes psychiques. Peu importe, c'est la même question. Ou est-ce que l'homme est un sujet qui fait qu'il peut être acteur autodéterminé dans son existence. C'est un débat qui traverse encore aujourd'hui la sociologie, la philosophie, etc., à partir des sciences humaines. C'est le problème du statut des neurosciences, c'est le problème de cette branche des neurosciences qui est le cognitivisme qui a eu le vent en poupe à l'université ces dernières années, là qui maintenant ça va mieux, Dieu merci. C'est les mêmes débats, il faut les resituer de la même façon. Parce que c'est des questions, encore une fois, intemporelles. C'est des questions éternelles. Voilà, donc, on se rend compte que Augustin est porteur, dans son monde du IVe siècle, de toutes les questions qui agitent la communauté humaine jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelle est la conception qui va être déterminante de la communauté humaine ? De la possibilité de l'être ensemble que développe Augustin. Alors, il n'y a pas un écrit, un seul texte d'Augustin qui concentre toute sa pensée de la communauté humaine, toute sa pensée de l'être ensemble des hommes. C'est dispersé, sa doctrine au sujet de cette question est dispersée dans différents textes, il faut aller piocher. Sachant que Augustin, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Je ne sais plus, j'avais dénombré. Je crois qu'on compte, alors de longueur plus ou moins importante, on compte 300, plus 350 livres, écrits livres différents d'Augustin. Il a une production immense. Vous savez que ça, c'est par contre le côté positif d'Internet. Sur plusieurs sites, vous pouvez trouver la quasi-totalité de ses écrits en traduction française. Le problème, c'est que c'est souvent des vieilles traductions dans le domaine public et qui sont plus ou moins rigoureuses. Mais on peut quasiment tout trouver, quoi. C'est un corpus immense qui est accessible facilement, quoi. Mais autrement, vous avez des publications, évidemment. Donc, d'un côté... Sa pensée de l'être ensemble est extrêmement dispersée, mais d'un autre côté, un livre que je n'ai pas encore nommé est central, ce n'est pas les confessions, pour sa pensée de la communauté, est central, c'est la cité de Dieu, Civitas Dei, Civitas Dei, c'est I-V-I-T-A-S, D-E-I, en deux mots, hein. La cité de Dieu. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais enfin, ça va de soi avec ce que j'ai dit. Augustin écrit en latin. Alors, la théorie centrale, c'est très complexe. Hein. La théorie centrale d'Augustin, qu'on retrouve dans la Cité de Dieu, est la suivante. C'est qu'au fond, il y a deux communautés humaines, deux cités humaines. Une dont l'homme fait l'expérience quotidienne dans sa vie terrestre. C'est la cité mondaine, la cité des hommes, la communauté des hommes. Et l'autre, qui n'est pas accessible aux humains, c'est la cité de Dieu, c'est-à-dire la cité céleste. La cité céleste est l'idée de la cité humaine, de la communauté humaine. C'est là qu'il faut comprendre ça à la lumière du platonisme. Vous avez en tête, donc Platon forge de façon déterminante le concept d'aïdos. Je préfère le dire en grec, non pas pour faire bien, mais parce que on va traduire immédiatement, ça fait penser d'ailleurs phonétiquement à ce mot-là qui en est issu, à idée. Et ça induit toute une conception de Platon qui est, à mon avis, très dommageable, qui est le Platon et les platoniciens comme des idéalistes. Donc l'idéalisme, hein, vous voyez ce que ça veut dire aujourd'hui, quoi. Des planeurs. Je rappelle encore une fois qu'au Moyen-Âge, les platoniciens étaient désignés d'un terme beaucoup plus exact, me semble-t-il, ils étaient désignés comme les réalistes. On désignait les... Dans toute la querelle au XIIIe siècle qui oppose les philosophes platoniciens aux philosophes d'un courant qui va émerger à l'époque, qui est, j'en ai déjà parlé, mais pas pour tout le monde, les nominalistes qui s'opposent à Platon, vous avez tout ça dans Le Nom de la Rose, hein, le roman et le film qui est Guillaume d'Occam. Les nominalistes considèrent que les idées, ça n'existe pas, que les mots, les noms, ce n'est qu'une convention, mais que la réalité du monde est faite d'objets qui, en tant que tels, sont uniques et ne sont nommés que par convention, par les noms. D'où l'appellation de ce courant comme nominaliste, mais qui a une coupure irrémédiable entre les mots et les choses. Michel Foucault, ce grand philosophe contemporain, cas de la seconde moitié du XXe siècle, et dont le livre, ou un des livres les plus importants est « Les mots et les choses », s'inscrit dans la lignée nominaliste, c'est-à-dire qu'il est anti-platonicien. C'est-à-dire que ce courant considère qu'il y a l'ordre des mots, l'ordre du langage d'un côté, et l'ordre du réel, l'ordre des choses de l'autre, et que les deux ne coïncident pas. C'est la figure de Guillaume d'Occam qui est centrale à l'origine de ce courant de pensée qui est rigoureusement anti-platonicien. Mais les platoniciens étaient donc nommés les réalistes et non pas les idéalistes. Pourquoi ? Parce que pour Platon et les platoniciens, ce qui fait que le monde est monde, c'est qu'il est ordonné, organisé, d'accord ? Qu'il obéit à un ordre. Autrement, le degré le plus dégradé de l'être, c'est la matière informe. La matière informe, c'est le chaos. C'est même pas nommable. Ça fait pas un monde. La matière informe, c'est la glaise avant que ça devienne poterie. Je reprends souvent la métaphore du potier parce que Platon l'utilise et elle est extrêmement parlante. Ce qui fait que le monde est monde, c'est que la matière informe est informée. Informée, au sens premier, c'est ça prend forme, ça donne une forme. Et ce qui donne une forme et organise le monde, c'est les idées. Les idées qui font partie du réel, qui sont des réalités. Et qui sont la vérité. Souvenez-vous du mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, tant que les hommes sont dans la caverne, ils prennent les ombres projetées par la lumière qui vient de l'extérieur sur la paroi, ils prennent ça pour la réalité, mais en fait ce sont que des illusions, des leurs. Et pour trouver la réalité, il faut sortir de la caverne pour s'exposer au ciel éclairé, ensoleillé des idées qui sont la vraie réalité. D'accord ? Et le potier, précisément dans son acte créateur, pour Platon, est l'illustration de cela. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'il façonne peau, une poterie, céramique quelle qu'elle soit, c'est que la matière informe, il va l'informer, il va lui donner une forme par son geste. Mais en vertu du fait qu'il a dans la tête l'idée de la forme. Et en fait, eidos, il vaut mieux le traduire par forme, d'ailleurs, que par idée. C'est moins ambigu. Ça prête à contresens. Donc, le potier donne forme à la matière informe, au chaos, parce que ses mains sont mues par l'idée qui préexiste dans son esprit. Donc, les idées sont bien des réalités préexistantes qui font que le cosmos, le monde, est habitable, d'ailleurs, est habitable et connaissable. Vous savez que c'est au fond ce que pensent les physiciens contemporains. Certains physiciens contemporains, que ce soit des astrophysiciens, je pense à Aurélien Barreau qui était venu l'été dernier, ou des physiciens de l'infiniment petit, pensent que si on arrive à, par les mathématiques par exemple, à penser une réalité non immédiatement saisissable, non immédiatement visible, c'est bien qu'il y a des correspondances entre la façon dont la matière s'organise et la façon dont l'esprit humain développe des idées et porteur d'idées. Donc là, le platonisme, contrairement au nominalisme, considère qu'il y a une passerelle, c'est-à-dire qu'il y a une analogie, c'est la méthode de Platon, l'analogie, qu'on peut faire une analogie entre l'idée et les choses. Et donc les mots et les choses. Vous voyez à peu près ? Donc, pour illustrer ça du point de vue d'Augustin, donc les deux cités, vous voyez à partir de là comment sa conception est complètement platonicienne. C'est-à-dire qu'en gros, la cité humaine, terrestre, est d'une certaine manière l'image de l'idée de la communauté, qui est la cité qui est dans le ciel, qui est la cité de Dieu. Vous voyez ? Donc, la cité de Dieu, c'est le modèle, c'est l'idée, c'est la forme de la communauté humaine, mais qui est dans le ciel, qui n'est pas accessible à l'homme dans l'expérience humaine. D'accord ? Et l'homme, dans l'histoire, ne fait l'expérience de l'être ensemble que dans la cité mondaine. Il faut que j'ajoute quelque chose qui est déterminant et qui est là où je veux en venir. C'est que, contrairement, Augustin, c'est un platonisme dévié, perverti, au sens où l'image mondaine de la cité, de la communauté de Dieu, est une image totalement corrompue, faussée, déformée. Donc, on n'est pas dans le platonisme pur. Et qu'est-ce qui fait que la cité humaine est une image corrompue et donc une réalité mondaine corrompue? Eh bien, pour le coup, c'est que l'homme est marqué par le manque, la déficience originelle, par le péché originel. Donc, la communauté humaine est gouverné par le manque, par la conséquence du manque, par la mort. C'est-à-dire que ce qu'il y a de commun qui fonde l'être ensemble des hommes, c'est la mort. Mais il faut accepter de se laisser guider par une pensée, quitte à la quitter ensuite. Toute pensée correspond à une vision, une certaine vision. C'est-à-dire qu'il y a, à partir de là, il faut accepter de cheminer dans cette pensée pour ensuite la quitter ou en faire la critique, quoi. Mais on ne peut pas d'emblée l'évacuer au nom du fait qu'il y aurait un postulat de départ, parce que tout effort de pensée part de prémisse. Tout effort de pensée part de prémisse. Pour qu'il y ait un lien, il faut bien qu'il y ait reconnaissance d'un commun. Parce que l'altérité radicale ne peut pas faire communauté. Il y a une correspondance souterraine entre Blanchot et Augustin. Un vecteur contemporain de Blanchot, en gros, de cette correspondance, c'est quand même Heidegger. Heidegger, il faut ne jamais oublier que toute sa philosophie est quand même liée à sa formation de départ. Sa formation de départ a été faite par la fréquentation d'un moine augustin, autrichien. Moine augustin, qui s'appelait Abraham à Santa Clara, c'était son nom religieux. Et donc, il y a un lien entre Augustin et la pensée d'Heidegger. Pour le moment, je ne fais pas la critique de la pensée d'Augustin jusqu'à Heidegger. J'essaie de la creuser, de la cerner, de la comprendre. Bien sûr que ça mène à une impasse, mais c'est une question de méthode. Il faut accepter. Méthode, c'est métaodos en grec, ça veut dire, au fond, faire un détour. Il faut accepter la patience du détour avant d'en venir à la critique. Parce que si on fait la critique trop vite, le gros risque, c'est qu'à son insu, on va retomber dans le même travers, sans qu'on s'en rende compte, alors qu'on avait pensé la question réglée. Je pensais qu'on aurait le temps de les aborder aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner les textes pour creuser un petit peu d'Augustin que je souhaitais qu'on commente. On commencera par ça la prochaine fois. Sachant que j'ai mis en gras, pour les textes qui sont retapés, j'ai mis en gras les passages qui sont très courts, les passages qui importent par rapport à notre question. Donc, un premier texte qui fait une page et demie, les passages sont très brefs, vous verrez, sont issus d'un commentaire de l'épître aux Galates de Paul. D'accord ? Augustin, parmi ses écrits, il y a beaucoup de commentaires des épîtres de Paul. Le deuxième texte, qui est beaucoup plus long et qui est une photocopie d'un livre, est extrait donc de la Civitas Dei, de la cité de Dieu. Et là, les passages les plus importants, vous verrez, c'est des espèces de traits dans la marge. Oui, il y a deux extraits. Il y a un court extrait du livre troisième de la cité de Dieu et un extrait plus long du livre 15 où il est question de ce que je n'ai pas encore abordé mais qui creuse cette question de la mort comme fondement de la communauté. Il parle de trois couples de criminels qui sont au fondement des communautés humaines, Caïn et Abel. Sur un mode mineur, Ismaël et Israël, et Romulus et Rémus. C'est en ce sens-là que le commun est ce qui fait lien, parce que pour Augustin, c'est au fondement des communautés humaines historiques. Et sa thèse, vous verrez, sa thèse, c'est qu'au fondement des communautés humaines, il y a la mort, il y a un fratricide, il y a un meurtre, et que ça détermine complètement l'essence de ces communautés humaines. Mais Freud est inspiré de toutes ces histoires. Alors, rapidement, le troisième texte est très court, et le passage concerné est très court. C'est un court extrait du livre 10, du chapitre 4, des Confessions. Comme ça, vous avez trois aperçus d'Augustin.